sur Aligre FM avec Jean-Marc Gélin.
Eh bien, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Jazzland. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une émission qu'on va mettre sous le signe de l'harmonie. On va filer les accords, l'accord parfait. On va vous parler de sixte, de tierce, de quarte, de quinte, tout ce que vous voulez. Enfin bref, toute cette alchimie à laquelle moi je ne comprends pas grand-chose, mais qui se marie toujours très bien pour faire des mélodies, des œuvres d'art. Alors, deux leçons d'harmonie aujourd'hui. La première va nous être donnée au travers d'un hommage rendu à quelqu'un qui était un des maîtres de l'harmonie, je crois en tout cas des arrangements, pour un super album. C'est Gil Evans, hommage rendu à Gil Evans au travers d'un album qui s'appelle Life for Gil, que vient nous présenter le batteur du groupe, et je vais lui laisser dire son nom.
Bonjour, je m'appelle David Georgelet, et pour l'harmonie, on verra, parce que moi je suis batteur, donc je vais quand même être assez modeste sur l'harmonie.
Oui, ben, alors je ne sais pas, ça pourrait peut-être faire l'objet d'un débat. Paul Mossian, non, c'est, non, plutôt mélodiste, on va dire que c'est un mélodiste, je ne sais pas, on va voir. Et puis la deuxième leçon d'harmonie nous sera donnée par celui pour qui l'harmonie, c'est non seulement il la pratique, mais aussi il l'enseigne à ses millions de followers.
Comme vous y allez, Jean-Marc.
Allez, des centaines de milliers.
On aimerait.
Et c'est le pianiste, lui, c'est dire son nom.
Étienne Guéraud, bonjour à tous.
Qui nous arrive pour la sortie, double sortie d'un album et sortie d'un livre. Messieurs, je vous propose qu'on commence cette émission. On va enchaîner sur Gil Evans, ça m'intéresse d'avoir vos avis tous les deux. Mais on va commencer par un premier morceau de l'album Life for Gil, et je vous propose qu'on écoute The Time of the Barracudas, qui est tiré d'un album,
d'un album de Gil Evans.
Mais je vous préfère que vous le prononciez le titre
the
de l'album.
Individualism of Gil Evans.
Vous y arrivez bien.
Ah, merci.
Moi, je préfère que ce soit vous. Allez, on écoute. Thank you. Et oui, nous aussi, on a envie d'applaudir sur cette magnifique, ce magnifique arrangement autour de The Time of the Barracudas de Gil Evans. Alors, avant de parler de la naissance de ce projet, moi, j'ai une question à vous poser à tous les deux. C'est Gil Evans, ça représente quoi pour vous en tant que musicien? Qu'est-ce que vous retenez de Gil Evans? Plutôt l'arrangeur, le compositeur, le musicien, qu'est-ce que vous retenez tous les deux?
Bah, là, typiquement, je retrouve les plages, les plages modales dans, la composition, quoi. Donc toutes ces, comment dire, ces mesures qui s'enchaînent avec des longues plages d'improvisation, quoi. Et c'est pour moi, c'est un peu ça, quoi. C'est la signature.
C'est la signature Gil Evans.
Un petit peu. Il n'y a pas que ça, mais ça me fait tout de suite penser à ça. Ça rappelle des tas de choses, quoi. Et bravo, le disque est super. Hein,
merci.
Et vous, David, qu'est-ce que pour vous Gil Evans? D'ailleurs, bon, alors justement, ça me permet de vous demander. Comment est né ce projet? Pourquoi cet hommage à Gil Evans?
Eh ben, en fait, ça vient de l'album dont on a parlé tout à l'heure, Individualisme, qui est, moi, est un de mes albums préférés, mais toute musique confondue. Je trouve que c'est le mariage parfait entre l'écriture, l'improvisation. Enfin, voilà, il y a quelque chose dans cet album. Et puis, je me suis aperçu que c'était un des disques préférés de nombreux musiciens, de jazzmen. Donc voilà ce disque, et j'ai la chance d'habiter à Orléans depuis une petite dizaine d'années et d'avoir rencontré des musiciens classiques, chose qui était beaucoup plus difficile à Paris. Quand j'habitais à Paris, c'est quand même assez cloisonné, hein. Vous connaissez le truc, on fait du jazz, mais il faut dire quel jazz on fait. Enfin, voilà, c'est une ville comme Orléans, on fait de la musique et puis on rencontre des gens. Donc j'ai eu la chance de rencontrer des musiciens classiques fort talentueux et très ouverts à plein de musique. Et puis... après avoir joué un concerto de Goulda, de Friedrich Goulda au violoncelle, où là c'était les professeurs du conservatoire qui m'avaient invité pour jouer cette œuvre. Et moi je me suis dit, en match retour, je vais leur proposer cet album que j'ai jamais entendu live. Donc je m'y suis attelé, j'ai cherché des partitions, je trouvais rien du tout, et puis en fait je trouvais pas les partitions parce qu'elles n'existent pas. Donc voilà, ça commençait mal, mais bon, en cherchant, en relevant, on a quand même réussi à jouer quelques morceaux de ce disque. Et on a fait, du coup, on a réussi à faire un concert avec quelques morceaux joués en grand orchestre et, pour compléter, quelques morceaux joués en quartet, avec le quartet. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'en fait, l'exercice était encore plus intéressant de le jouer en quartet, parce que le jouer en grand ensemble, c'était presque un kiff perso de se retrouver au milieu de la masse sonore, mais après, pour un disque, refaire la même chose en moins bien, forcément, pas grand intérêt. Donc voilà, c'est cette espèce de projet, on ne sait pas où ça va amener, et on est arrivé au quartet.
Mais comment on fait pour passer d'un format en grand ensemble? Je rappelle que sur cet album dont vous parlez, il n'y a que des pointures, hein, voilà. C'était qui pour vous, votre préféré? C'était Ozzy Johnson ou Elvin Jones?
c'est surtout Elvin.
Mais comment on fait justement pour...
Eh ben, en fait, c'est incroyable.
Pour rétrécir la masse.
Étienne va peut-être pouvoir...
Tout en gardant une masse orchestrale quand même.
Oui, mais enfin, tu vas me dire, Étienne, si je me trompe. En fait, quand tu connais une œuvre vraiment par cœur, quand tu la joues, t'as beau être même en trio sur un truc big band, tu la connais tellement que quand tu la joues, tu continues à entendre l'œuvre. Et comme tu l'entends, je crois que tu la joues et forcément, il y a quelque chose qui passe. Alors, ne me demande pas pourquoi, comment. Évidemment que c'est plus facile au piano et François, quand il joue, il pense orchestration, évidemment. Oui. Mais aussi Thierry au trombone. Thierry ne va pas forcément jouer la ligne mélodique, il va chercher les voix, les arrangements. Parce qu'on connaît tellement bien l'album d'origine qu'on ne peut pas faire autrement que de le jouer comme ça. C'est mon interprétation, parce que moi, quand je joue en quartet, j'ai encore l'impression de jouer l'album en entier. Je l'entends en permanence. Donc, je crois qu'inconsciemment, on reproduit ce qu'on a dans nos oreilles. Et je dirais presque que c'est la source même de comment on projette la musique. C'est d'abord qu'est-ce qu'on a dans la tête, et c'est ce qu'on a dans la tête qui va être projeté. En fait, c'est pas ce qu'on a au bout des doigts ou au bout des baguettes. Je pense pas. Je pense que c'est ce qu'on a dans les oreilles et dans la tête.
Et en même temps, vous vous êtes approprié la musique. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Parce qu'il n'y a pas le choix, de toute façon.
Oui, mais presque inconsciemment. C'était pas une... On ne s'est pas dit, tiens, on va réarranger le truc, on va remettre des Tu sais, comme on fait souvent, tiens, on va changer la métrique, on va changer la tonalité, on va faire... Non, non, on joue le morceau tel qu'on l'entend, comme ça. Allez, on le joue.
Alors,
et en fait...
On va parler de l'équipe, hein, puis de la façon dont s'est constituée l'équipe, mais je propose qu'on écoute un autre titre qui ne s'appelait pas Trombone Song au départ, je crois que ça s'appelait Flute Song, c'est ça ?
Alors ça, c'est le seul morceau du disque qui n'est pas de Gil Evans. Il y a un morceau dans le disque, toujours individualisme, qui s'appelle Flute Song. C'est un mini concerto pour flûte basse qui est magnifique, enfin une écriture incroyable. Et François Chesnel a écrit pour son ami Thierry Livert un mini concerto pour trombone dans l'esprit du morceau qui s'appelle Flute Song, et il a nommé Trombone Song.
On l'écoute.
Thank you.
Et oui, vous êtes bien sûr Jazzland à l'IRFM 93.1 en compagnie de David Georgelet pour la sortie de l'album Live for Guild paru sur le petit label. Alors il faut aller chercher hein, sur les plateformes, hein, je crois qu'il est, il doit être disponible sur les
sur
plateformes.
Bandcamp et sur... directement sur le site du petit label.
Du petit label parce qu'après c'est édité en un très petit nombre ouais, d'exemplaires.
C'est sérigraphié, j'en profite pour remercier toute l'équipe du petit label parce que c'est... C'est de l'artisanat, mais c'est des gens fabuleux, super ouverts, toujours un label qui va peut-être survivre grâce...
on le souhaite parce qu'il y a que du talent. Alors magnifique. Vous allez nous raconter comment s'est faite cette rencontre avec ce petit label, mais avant peut-être nous dire quelle est la Dream Team de cet album.
Alors, il y a le trio qui s'appelle Georges Les Zelnik Chesnel. C'est un trio qu'on a déjà depuis... une douzaine d'années, et on a fait deux disques en trio qui sont sortis sur le petit label.
Yoni Zelnik, on ne le présente plus, il tourne voilà, à peu près avec tout le monde. Et François Chesnel, il reste un peu en Normandie, du côté de Caen.
Voilà, c'est ça, mais bon, on s'est retrouvé il y a une petite quinzaine d'années. Bah, Yoni, en fait, on s'est aperçu que ça fait 30 ans cette année qu'on joue ensemble.
Oui. Vous êtes pratiquement mariés, hein, vous faites quand même un vieux couple.
Non,
hein.
on se connaît bien, nos chemins se sont un peu séparés quand moi je n'ai plus fait que du jazz.
Vous arrivez à l'attraper,
Comment ça?
Il est partout.
Ben écoute, est-ce que c'est l'amitié? Je ne sais pas, en tout cas il se rend disponible et puis on a encore des beaux projets ensemble. Il n'y a pas que ce trio, on continue à jouer ensemble régulièrement, donc...
Et, là, vous avez
et pardon, et voilà, et pardon. Donc le trio s'est agrandi pour l'occasion d'un formidable tromboniste qui s'appelle Thierry Liver, qui est également de Caen, comme François Chesnel, qui est professeur au conservatoire. Et c'est lui aussi qui nous a aidés à relever les partitions d'individualisme, parce qu'il a des feuilles incroyables, il a une grosse culture de big band, il connaissait très bien l'œuvre de Gil Evans. Donc voilà, c'était... C'est la personne qui nous a permis de faire le pont avec Gil Evans.
Mais le choix s'est porté sur le trombone et pas sur la trompette.
Le choix s'est porté sur la personne plus que l'instrument.
Oui. Par la compréhension de la musique.
Voilà, et puis c'est un vieux compère de François comme Yoni et moi. En gros, voilà, il y avait deux binômes. Et en fait, j'entends presque pas du trombone. Enfin, évidemment que c'est du trombone, mais ça pourrait être autre chose. C'est pas très important que ce soit du trombone. Oui, ça aurait pu être un autre instrument. Je suis ravi que ce soit du trombone parce que j'adore cet instrument. Mais c'est d'abord Thierry Liver avant d'être le trombone. Voilà.
Et Étienne, dans ce qu'on a entendu là, vous, professeur d'harmonie, ça vous parle en termes d'harmonie ce qu'on vient d'entendre?
Oh bah oui, enfin je n'ai pas de regard analytique, là j'écoute la musique oui. Et puis je prends du plaisir à entendre, c'est très bien quoi, évidemment j'entends les plages, j'entends les belles couleurs, les beaux accords qui passent, mais c'est marrant parce qu'il y a ces raccords avec l'univers evansien quoi, de Gil Evans,
complètement,
ce qu'on entend, ces longues plages, les longues pédales, là c'est
une référence, c'est une référence à Gil Evans, tout l'album évidemment.
David Georgelet, est-ce que vous avez un concert à nous proposer?
Oui, le 29 avril au Sunside. Le 29 avril au Sunside, où on jouera l'intégralité de l'album et les morceaux qu'on a l'habitude aussi de jouer en trio, donc qui sont sûrement en quartet. Enfin, on va compléter le set.
Alors, le projet n'a pas de nom de groupe, hein, c'est Live for Guild, mais
c'est le trio plus Thierry Liver, Georges Les Zelnik Chesnel Trio plus Thierry Liver, en gros c'est ça, mais le projet s'appelle Live for Guild, c'est la musique de Gil Evans. Donc.
Alors, je propose qu'on écoute un dernier morceau qui n'est pas tiré de issu de The Individualism of Gil Evans, mais d'un autre album célèbre, puisque Gil Evans, comme les auditrices et auditeurs le savent, a beaucoup œuvré avec Miles Davis sur des albums qui ont marqué l'histoire du jazz. Et là, je propose qu'on écoute Miles Ahead.
C'est ça.
Allez.
Bye. Bonsoir, c'est Alex Dutil dans Jazzland sur Aligre FM, tous les derniers samedis du mois, 17h-18h. C'est l'heure du plaisir du jazz.
Et oui, ça fait quand même plaisir hein, de réentendre cette voix à la radio.
Mais oui,
hein.
Mais oui.
Donc, vous l'avez bien noté, c'est tous les derniers samedis du mois en compagnie de Alex Dutil. Je ne vous dévoile pas le thème de la prochaine émission. Moi, je le sais, mais je ne vous le dirai pas. Voilà. David Georgelet, merci beaucoup. Donc, on se donne rendez-vous donc, le
29 avril au Sunside.
Le 29 avril au Sunside.
Live for Gil, voilà. Si vous aimez la musique de Gil Evans et ce répertoire qui est très, très peu joué, puisque voilà, c'est l'occasion de nous rencontrer. On vous attend.
On se donne rendez-vous.
Merci Jean-Marc.
Vous y serez, Étienne ?
J'espère. Je suis là, oui.
Allez, je vous emmène. On ira
avec
ensemble.
Avec plaisir. Oui. Bravo. Hein, vraiment, je te renouvelle mes félicitations.
Merci, Étienne. Merci beaucoup.
Étienne, on a plein de sujets à évoquer, mais là, on va évoquer le sujet immédiat de l'album qui vient de sortir, Fling, sur le label Art Culture Europe. On va s'en parler longuement. Je vais pas vous. Oui, j'avais envie de vous demander, tiens, c'est quoi l'harmonie, mais on va en reparler après. Quand on parlera de votre livre. On parle du livre, quand même. Okay. Mais avant toute chose, je propose qu'on écoute un premier morceau. On va écouter Mango.
Ok.
Et on va parler de l'équipe et on va parler de ce problème. Parce que ça fait quand même un petit moment que vous étiez pas. Vous étiez venu.
Oui, c'était
pour,
il y a 4 ans, je crois.
2021.
Ouais,
pour Soap Predictable.
Voilà, exactement. Voilà,
avec la même équipe.
Oui, exactement. Charlotte n'était pas là. Enfin,
Charlotte, on l'entendra,
on l'entendra après. Ouais.
Voilà. On va parler de l'équipe après. Voilà. On écoute Mango. Thank you. Alors, on laisse toujours un peu de silence après la dernière note, parce qu'elle fait partie de l'harmonie aussi, hein, la dernière note. Hein, on dit toujours le silence après la musique, c'est encore de la musique. Et là, on venait d'écouter Mongo, donc un titre d'Étienne Guéraud, que vous avez composé, dans, tiré de l'album Fling, sur le label Art Culture Europe. Donc, on disait qu'on s'était vu il y a 4 ans sur cette radio pour So Predictable. Toujours la même équipe.
Toujours la même équipe. Mais je suis bien avec eux, alors je les garde. Alors, ils veulent bien jouer avec moi, ça tombe bien.
C'est qui?
Alors, c'est Gauthier Garrigue à la batterie et Marc Buronfos à la contrebasse. Et on a enregistré à Meudon.
Alors, vous avez le sentiment qu'avec eux, vous avez trouvé quelque chose, une sorte d'alchimie, quelque chose qui fonctionne et qui est...
Oui, c'est le bon terme. Il y a une alchimie parce que c'est, déjà, humainement, c'est fluide. Musicalement, c'est facile. Et puis j'aime comme ils jouent. Et c'est vrai qu'il y a pas, on ne parle pas beaucoup. On répète peu, et il y a des évidences quand même quand on se met un petit peu à déchiffrer la musique. Quand j'amène un petit peu des compos comme ça, je donne peu d'indications, et puis en général ils me proposent des idées. On a fait Fling par exemple, ça c'est une bonne partie. Outre la composition, la genèse un peu, la création du morceau, on l'a faite ensemble, mais Gauthier a proposé plein d'idées, Marc aussi, puis c'est arrivé à ce résultat.
Et il y a un moment, je pose la question d'ailleurs à tous les deux, quand vous êtes comme ça en trio, il y a un moment où vous dites, ça y est, c'est évident, on a le truc, et ça sonne exactement comme on veut que ça sonne.
Je ne sais pas ce qu'on pense, David. Moi, je suis un peu ennemi de la recherche. Je ne suis pas perfectionniste. C'est-à-dire parce que, si je l'étais, je le serais d'une façon qui serait insupportable. Je voudrais tout reprendre. Donc, il y a un moment, j'essaye d'amener un matériau qui est assez abouti. Je propose. Et puis, quand l'ensemble se tient, que c'est cohérent, qu'on arrive à peu près à 80-90% de ce que j'avais en tête, je pense qu'après, il faut laisser vivre les choses, quoi. Le morceau, il faut qu'il fasse sa vie.
Moi, je dirais que c'est quand on se dit rien que ça marche. C'est un petit peu que tu dis.
Ouais.
C'est plutôt quand on a toujours envie de proposer quelque chose aux autres, ou alors que les autres disent « Ah, mais tiens, en fait, je parle pour un batteur. Ah, bah tiens, tu devrais prendre les balais là, puis là, les baguettes. » Quand on parle trop, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Mais quand on se dit rien et qu'on pense rien, parce que tu vois, tu demandes si... c'est que ça y est. Voilà.
Moi, ça m'est arrivé de demander des choses précises, par exemple en termes de tempo. Tu vois, je voulais, parce que Gauthier, je lui ai amené des œuvres qu'il ne connaissait pas. Je lui ai dit, je l'entendrai un petit. Voilà, ça a été vraiment des discussions à la marche sur si on le prenait un tout petit peu plus laid back, est-ce que ça sonnerait pas mieux? On essaye, on regarde. Puis ce qui est bien avec Marc et Gauthier, c'est qu'ils sont force de proposition. Donc, encore en studio, on a fait des prises. On disait, tu vois pas qu'on essaye comme ça? Et puis on a eu de bonnes surprises.
Donc c'est un vrai collectif, en fait.
Oui, Je les laisse me donner leur avis, leurs sentiments, participer.
L'album précédent, on disait, So Predictable, c'était 2021.
Ouais.
Donc, il s'est passé 5 ans. Ouais. On vous a attendu pendant 5 ans.
Mais oui, je prenais mon temps.
C'est ça, ça veut dire qu'il faut vraiment ce temps de maturation, ou tout simplement vous n'aviez pas le temps?
Non, j'avais pas le temps, j'ai fait plein d'autres choses. Je tournais, j'ai continué un peu. C'était la fin de ma vie dans la variété qui se terminait à ce moment-là. Et puis, on a joué un petit peu, j'avais plein d'activités, mais j'en ai profité pour écrire. J'ai quand même composé pas mal de musique. Et puis, c'est Marc, d'ailleurs, qui m'a dit, mais tu veux pas, il serait temps quand même qu'on rejoue, qu'on
retourne. Alors, il faut dire aux auditrices et auditeurs qui ne connaîtraient pas Étienne Guéraud, mais ils sont très peu nombreux, que Étienne Guéraud est aussi romancier, puisqu'on vous a, quand on vous avait reçu en 2021... Je ne me souviens plus, excusez-moi, j'ai un trou.
Alors, c'était un...
L'anarchiste.
La sonate de l'anarchiste. Vous m'aviez lu, d'ailleurs,
Je l'avais lu.
Oui, je me rappelle très bien, ça m'avait beaucoup touché.
Et donc, vous êtes romancier, vous écrivez aussi des méthodes, vous êtes aussi enseignant, vous avez...
À la Bill Evans Piano Academy, on peut la citer.
Voilà. Absolument, bah oui, j'allais le faire, c'est très très bien. Vous avez une chaîne YouTube qui est absolument passionnante et toujours un peu avec des leçons de musique, mais toujours avec un petit côté, un petit peu drôle aussi quand même, un petit peu en prenant la politique sous un angle un peu détourné.
Il y en a un peu du sociétal, quelques messages subliminaux qui passent.
on les voit bien. C'est pas si subliminal que ça, mais voilà, donc on vous conseille. Vous pouvez dire d'ailleurs le nom de cette chaîne YouTube.
Ah, c'est Piano Jazz Concept.
Piano Jazz Concept, on conseille aux auditrices et auditeurs de rejoindre la cohorte de milliers de de followers
sont les bienvenus.
Qui suivent. Alors, je reviens sur l'album. Donc, il vous a fallu ce temps d'écriture. Et là, vous vous êtes dit, c'est le moment. Vous aviez envie de rejouer avec le groupe.
Oui, c'est ça. C'était l'alignement des planètes, quoi. On avait ils avaient du temps. Les compos étaient prêtes. C'était vraiment le bon moment, quoi. Et puis, on a cherché un lieu. Et finalement, c'était évident de retourner à Meudon aussi.
Voilà, vous avez enregistré Meudon. Hein.
Voilà, avec Julien, Bernard, toute l'équipe, ça s'est très bien passé. Puis je suis hyper content du son.
Oui, absolument.
Voilà, bon, les pianos à Meudon, c'est extraordinaire. J'ai choisi cette fois-ci le Sten. Parce qu'il y a le choix entre le Sten et le Fazioli.
Le Fazioli.
Meudon, voilà. Et puis, c'était le bon moment, quoi.
Alors, pour ne pas l'oublier, vous avez plusieurs dates. Vous avez trois soirs au Sunside. Alors, si vous voulez aller au Sunside, donc c'est le 12. 13 et 14 mars, si vous voulez aller au Sunside, dès qu'on a fini cette émission, même pendant qu'on est en train de parler, prenez vos places parce que ça va être un petit peu compliqué. C'est à chaque fois, c'est un set ou deux sets
Deux sets. D'ailleurs, au début, Stéphane m'avait proposé, on faisait la formule deux concerts par soir. Et j'ai pas aimé ce rapport avec les gens, l'idée de vider une salle, un peu à l'américaine, quoi. Je sais que ça se fait de plus en plus. Et j'avais dit, je suis pas fan de... Parce que ça, en fait, j'arrive pas à donner à l'économie et j'ai vraiment l'impression parfois de me répéter. Parce que si on défend un répertoire, on va jouer parfois les mêmes morceaux dans la même soirée.
Complètement d'accord avec vous.
Et là, le deuxième set, je me dis, bon, il faut que je sois aussi généreux avec les gens, il faut être aussi inspiré. Et bon, parfois, c'est dur. Voilà. Façon de me répéter, ce que je déteste faire. Que ce soit,
Je vous comprends tout à fait. Moi aussi, j'ai du mal avec ce concept-là. On va faire un petit tour en Bretagne.
Oui.
Avec tout le monde sait ce que c'est qu'un triskel, David, Georges.
Non, je ne sais pas.
C'est pas ce que c'est.
Mais moi, je ne sais même pas où est la Bretagne, donc.
Allez, vous avez déjà situé la Normandie, donc poursuivez, puis vous allez arriver à la Bretagne. Pourquoi est-ce qu'on écoute triskel?
Thank you.
Et oui, vous êtes bien sur Jazzland à Aligre FM 93.1 en compagnie d'Étienne Guéraud pour la sortie de l'album Fling. Et là, on venait d'entendre Triskel, c'est un petit clin d'œil d'Étienne Guéraud pour son passé vannetais, c'est ça? Oui, on dit vannetais hein, de Van. Étienne, il y a quelque chose qu'on entend dans votre album, et on va entendre tout à l'heure, parce qu'on va entendre Charlotte Planchoux, la mélodie est importante, mais l'harmonie, c'est quelque chose qui vous nourrit depuis bien votre rencontre avec Bernard Maury, je crois que c'est quelque chose qui continue à influencer votre travail en tant qu'artiste.
Ah, complètement, c'est les deux, c'est et la mélodie et l'harmonie, l'un tire l'autre, c'est un vieux débat, dans quel sens il faut prendre la pelote, je ne sais pas, c'est sûr que les deux sont complètement imbriqués et c'est central.
Quand vous donnez des cours à la Bill Evans Academy d'harmonie, premier cours, première minute, vous dites quoi à vos élèves?
Ça dépend de l'élève, ça dépend de son niveau, ça dépend d'où il est, mais en général, on reprend les fondamentaux, on reprend les bases, les positions, et puis on travaille sur le son.
Là, regardez-moi, j'ai un musicien qui ne connaît rien à l'harmonie, c'est un batteur. et moi, je suis un journaliste. Donc vous, premier cours, vous dites l'harmonie, c'est quoi?
Oh, bah, l'harmonie, c'est l'enchaînement des accords. Donc, c'est apprendre à faire sonner les accords. Et à travers les accords, surtout, c'est les positions. C'est-à-dire qu'un accord, c'est juste un objet comme ça, identifié avec des notes qui sont empilées. Mais il y a une façon de disposer les voix de ces accords pour les faire sonner. Donc on a des tas de procédés qui viennent du classique, qu'on a récupéré en jazz, avec des règles de doublure qui ne sont pas exactement les mêmes, mais c'est assez proche. Et puis on apprend à enchaîner les voix, enchaîner les accords. Et puis tout ça, ça fait de la musique. Voilà.
Alors vous êtes allé chercher dans cet album des influences un peu diverses, très, très jazzy, là, comme on vient de l'entendre, un peu plus. Il y a Que je t'aime, par exemple.
Ouais,
il y a
c'est la gageure.
ouais. Mais oui, c'est effectivement. C'était dur à travailler ce morceau?
C'était l'idée au début. Ça, c'est toujours un peu un pari quand je me dis il y a des tas de morceaux de variété ou des tas de mélodies populaires. Je me dis tiens, ça me plaît. Je me dis il y a une évidence. Et Que je t'aime, je me suis dit tiens. Je savais par rapport à la grille qu'il y avait quelque chose qui était possible. Que je pouvais faire, mais tant que je n'ai pas mis les mains sous le capot et que j'ai commencé un petit peu à farfouiller, je ne sais pas. Et j'ai commencé à regarder, à transposer.
C'était un côté challenge que vous
oui, c'était vraiment une gageure. Je me suis dit, tiens, est-ce que je vais pouvoir en faire, mais surtout quelque chose d'intéressant. Et les deux conditions, c'est qu'il faut que ça me plaise et il ne faut pas que ce soit une caricature. C'est-à-dire qu'il ne faut, il faut pas que ce soit non plus quelque chose qui soit une blague. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit un hommage. Donc c'est comment est-ce que je peux transfigurer la mélodie, en tout cas rendre hommage à la mélodie, que les accords soient jazz, que je sois content de ce que j'ai harmonisé, mais qu'en même temps ce ne soit pas trop dénaturé. C'est ça le...
Est-ce que vous avez beaucoup travaillé dans le domaine de la variété? Oui. Est-ce que ça vous a éloigné du jazz? Est-ce que vous vous revendiquez avant tout comme un pianiste de jazz?
C'est une bonne question. Oui, si instinctivement, vu que je viens de là et que même quand je faisais de la variété, j'ai continué de faire du jazz et j'ai continué de l'enseigner et puis d'avoir des projets et de composer. Donc, je reste le jazz, c'est ma musique. Donc, mais c'est vrai qu'il y a eu pendant peut-être une paire d'années où je ne faisais plus que ça quasiment. Et quand on me demandait, je disais bah, je suis pianiste de jazz. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je disais bah, je suis pianiste de jazz et de variété. Ça, je me suis présenté un peu comme ça pendant quelques années. Et puis voilà. Et d'ailleurs, j'ai aucun regret, aucun scrupule à avoir fait ça. Ça m'a appris beaucoup. J'ai rencontré des musiciens d'une très grande valeur, parfois de meilleurs musiciens que dans le jazz. J'ai rencontré des mecs super. Après, il y a des cons comme partout. C'est une expérience qui m'a nourri, qui m'a appris plein de choses.
Mais en plus, vous avez en quelque sorte des parrains, des gens qui sont derrière vous, qui sont des grands pianistes de jazz. Je pense à des gens comme Pierre Nunzi, par exemple, qui sont très élogieux sur vous. Ça vous donne envie de réinvestir la scène du jazz, dont vous étiez un petit peu éloigné quand même?
Oui. C'est, ma plus grande fierté, c'est d'avoir eu un mot de Claire Fischer.
Claire Fischer,
c'est mon parrainage le plus. C'est celui qui me tient le plus à cœur. Et c'est des gens qui m'ont beaucoup aidé à prendre confiance. Voilà, c'est vrai qu'on doute beaucoup, donc les gens vous disent c'est bien ce que tu fais. Voilà, d'avoir quelqu'un comme Claire Fischer qui valide vraiment, qui dit c'est super, j'adore, c'est continuer. Il m'avait dit ça quoi. Donc ça m'a permis, pour répondre à ta question, si tu veux, dans cette période où j'ai fait autre chose, je n'ai pas perdu le nord. La boussole, elle était toujours là et je savais que j'ai fait certains choix pour des raisons parfois économique, ne nous mentons pas. Voilà, parce que là, c'est vrai que le jazz, parfois, c'est une musique qui est difficile. Et je parle pour le quotidien, quoi, pour la vie de famille, tout ça. Donc, j'ai fait des choix qui étaient parfois des choix alimentaires que j'ai assumés. J'ai essayé de les faire les moins pires possibles, quoi, les moins mauvais. Et puis, et le fait d'avoir justement, de savoir que malgré tout, j'avais encore quelque chose à dire et que on m'avait... ces gens-là m'avaient reconnu, ça fait pas tout, hein. Je reste très modeste et je sais ce que je vaux par rapport à ces gens-là, moi je suis rien du tout, mais ça m'a permis de garder dans un coin de ma tête, bon, je sais où je dois aller, voilà.
Alors Étienne, et puis on va conclure parce que le temps passe très très vite, puis on voudrait qu'on passe un troisième morceau avec Charlotte Planchot d'ailleurs, on peut dire un mot, mais avant de parler de Charlotte Planchot, vous dormez la nuit?
Très peu, pourquoi?
Oui, je vois ça, non, parce que vous faites un nombre de trucs absolument incroyables, et notamment quand vous n'écrivez pas de musique.
Là, je suis debout. C'est vrai que vous me dites ça parce que je suis debout depuis 3h30, là, par exemple.
Moi aussi.
Ah oui? On va monter un club, alors.
On va monter un club. Mais ça n'intéresse absolument pas nos auditrices et nos auditeurs. Non, parce qu'on voudrait qu'on dise deux mots quand même de votre livre qui vient de sortir. L'élève est le maître. Ça ne veut pas dire qu'il déteste le maître, hein, c'est pas ça.
Non, mais le jeu de mots, c'est vrai que j'y pensais. Voilà, H-A-I-T,
EST. Donc c'est l'élève est le maître, EST. Pourquoi ce titre? Pourquoi l'élève est le maître?
C'est-à-dire qu'il faut lire pour comprendre, mais disons qu'il y a l'évolution de l'apprentissage où, déjà, c'est, en fait, ça peut être à double tranchant, au sens où je casse ce mythe un peu cette espèce de l'élève qui serait sur le même plan que le maître. Donc, ce n'est pas ça que signifie le titre. Mais au terme de son apprentissage, c'est la conclusion du livre, en fait, c'est la conclusion de l'essai, bien, l'élève devient son propre maître. En fait. Il y a un long processus de maturation et le maître est lui-même un ancien élève. Donc, voilà, on peut inverser les termes. Hein. Le maître est l'élève, l'élève est le maître.
Il y a un très, très beau livre de George Steiner, philosophe, sur le rapport du maître à élève qui va exactement dans le même sens. Mais voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc on rappelle les dates 12, 13 et 14 mars au Sunside. Alors on a commencé à parler de Charlotte Planchot parce qu'il y a deux morceaux qui sont chantés sur des textes d'Éluard et de Victor Hugo. Ça aurait pu être des textes d'Étienne Guéraud, mais il n'est pas franchi.
Oui, j'ai pas encore le talent. On en parlait, j'ai essayé la chanson. C'est ce qu'il y a de plus dur. Non, je me ferai aider d'un parolier, je pense. Je prendrai quelqu'un dont c'est le métier, qui sait vraiment. C'est vraiment un métier diffus. Écrire une bonne chanson, c'est comme de faire un bon arrangement, une bonne harmonisation. On peut essayer, mais il y a des gens qui font vraiment ça et qui le font très très bien.
Charlotte Planchot, pourquoi Charlotte Planchot?
Parce que j'adore comme elle chante. En fait, je l'ai découverte avec Marc Prior, on en parlait justement dans son album Le Carillon. Et sur la chaîne d'ailleurs, sur Piano Jazz Concept, j'avais analysé, c'était C'est la vie, une chanson que je trouve incroyable. Et j'étais tombé, mais complètement raide dingue de sa voix, de son univers. Je trouve que Charlotte, elle a un timbre, elle tranche vraiment avec les chanteuses qu'on a en France. Et puis on s'est rencontrés et puis quand j'ai eu ce projet, je lui ai dit écoute, voilà, j'aimerais bien t'inviter, et puis elle m'a dit oui.
On va l'écouter, on va se quitter d'ailleurs avec Charlotte Planchot, La courbe de tes yeux. Je remercie Armand Gury à la technique et Quentin Cherpin aussi à la technique. À suivre Lusitania. Soyez à l'écoute lundi, on retransmet la soirée, le palmarès de l'Académie du Jazz lundi soir. On sera en direct, c'est un événement que Aligre vous propose. Et nous, la semaine prochaine, on se retrouvera avec la clarinettiste Catherine Delaunay et Cathy Escoffier. Retrouvez-nous sur le site d'Aligre FM, www.aligrefm.org. On se quitte maintenant, messieurs, avec Charlotte Planchot pour La courbe de tes yeux, La courbe de vos yeux, tiré de l'album Fling sur le label Artwork d'Étienne Guéraud. David Georgelet, un grand merci. On rappelle le titre Life for Gil sur le petit label.
Et le 29 avril au Sunside également.
Allez, on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et faites bien attention à vous. Ciao.
Merci.
Merci, au revoir.
La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur. Un rond de danse et de douceur. Auréole du temps, berceau nocturne et sûr. Et si je ne sais plus.
Aligre FM 93.1.